VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 15 avril 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Mali, les autorités de transition ont annoncé la présidentielle en février 2022. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a mené une quatrième attaque meurtrière à Damasak au Nigeria. Suite à la dissolution de la commission électorale au Malawi, l'ancien parti au pouvoir demande l'annulation de l'élection du président Lazarus Chakwera. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Kaboul pour discuter du plan de Joe Biden sur le retrait des troupes américaines. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une personne a été tuée ce jeudi à Ocha, en territoire de Beni, lors d'une nouvelle manifestation contre les massacres de civils dans le Nord Kivu. Le gouverneur de la province a interdit les manifestations. Une dizaine de personnes ont péri lors de ces rassemblements depuis leur lancement le 5 avril, marqué par une grève générale dans plusieurs villes. L'élection présidentielle et les législatives au Mali se tiendront en février et mars 2022, a indiqué le gouvernement, réitérant la promesse des auteurs du coup d'État d'août 2020 de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 18 mois. Le point avec notre correspondant Mohamed Danioko.
Selon le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, la présidentielle sera couplée aux législatives le 27 février 2022. Un éventuel second tour aura lieu les 13 et 20 mars 2022. Le référendum pour la révision constitutionnelle aura lieu le 31 octobre prochain. Quant aux élections communales et celles des conseillers régionaux de Cercle et du district de Bamako, elles se tiendront le 26 décembre 2021. Le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta l'an passé avait 18 mois pour rendre le pouvoir après les élections nationales. Ces dernières semaines, l'annonce de la tenue dans le calendrier prévu de ces élections a fait l'objet de nombreux débats à Bamako, notamment sur la capacité ou la volonté des autorités de transition dominées par les militaires à les organiser. La semaine dernière, les Nations Unies, mais surtout les États-Unis, avaient exprimé leur inquiétude sur l'absence de calendrier électoral. Washington avait demandé aux autorités maliennes de fixer un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral devant mettre fin à la transition actuelle. Mohamed Danioko, VOA Afrique.
Les Cap-Verdiens élisent dimanche leurs députés. Une nouvelle alternance est possible entre le mouvement pour la démocratie du Premier ministre Ulysses Correa et Silva et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert de Janira Opfer-Almada, qui veut devenir la première femme à diriger le gouvernement de l'archipel. Dans le nord-est du Nigeria, des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué pour la quatrième fois depuis samedi la ville de Damasak, faisant au moins 8 morts et des milliers de déplacés. Les détails avec Abdourahman Dia.
Le Haut Commissariat aux réfugiés s'est dit très inquiet suite à cette nouvelle attaque sur Damasak dans l'État du Borno. Selon les premières informations, les hommes armés ont brûlé des bâtiments, le commissariat, la clinique des habitations des officiels ainsi que les bureaux du HCR, affirme la note de cet organisme des Nations Unies. Le HCR estime que 8000 personnes ont traversé la frontière pour se réfugier au Niger, venant s'ajouter au flot de réfugiés et de déplacés qui sont partis ces derniers jours vers le pays voisin, mais également vers le sud, en direction de Maïdougouri, la capitale du Borno. De son côté, le représentant du gouvernement local, Mustapha Bounoukolo, affirme que l'attaque a duré près de 10 heures et a fait 10 morts. Il parle de destruction sans précédent. Selon lui, les djihadistes ont attaqué la ville au moment où les gens rompaient leur jeûne du Ramadan. La seule option qui nous reste est de nous rendre à Diffa, où la plupart de nos proches ont fui ces deux derniers jours, raconte cet habitant de Damasak.
En Côte d'Ivoire, un ancien chef de guerre, Amadé Ouérémi, a été condamné à la prison à perpétuité par la cour d'assises d'Abidjan pour des crimes commis dans la ville de Duékoué les 28 et 29 mars 2011 pendant la crise post-électorale. Selon la Croix-Rouge, 817 personnes ont été exécutées en une seule journée et 300 selon les Nations Unies. La cour d'assises de Paris a condamné à la prison à perpétuité les trois accusés ivoiriens et bélarusses jugés par contumace pour le bombardement en 2004 qui avait tué 9 soldats français à Bouaké en Côte d'Ivoire. Le mercenaire bélarusse Youri Chouskine et les officiers de l'armée de l'air ivoirienne Patrice Wey et Ange Niandouillet sont toujours introuvables. Le ministère public français a requis qu'un ancien gendarme rwandais accusé d'avoir participé au génocide au Rwanda soit jugé aux assises à Paris pour crimes contre l'humanité. Détenu depuis 2 ans, Philippe Ategekimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Magnier, doit être fixé d'ici 1 mois sur la décision finale des juges d'instruction. Au Malawi, le Parti démocratique progressiste, ancien parti au pouvoir, réclame que le président Lazarus Chakwera quitte ses fonctions. La demande survient après la dissolution de la commission électorale. Des précisions avec Mouamadou Oumfa.
Près de 2 ans après la présidentielle au Malawi, l'atmosphère reste tendue entre pouvoir et opposition. La présidentielle de mai 2019, entachée d'irrégularité, a été annulée et réorganisée en juin 2020. Mais la Cour constitutionnelle avait fustigé la commission électorale pour sa gestion calamiteuse du vote. Le président Lazarus Chakwera a révoqué cette semaine l'ensemble des membres de la commission au motif qu'ils ont été déclarés incompétents par la Cour constitutionnelle. Pour l'opposition, cette révocation signifie que M. Chakwera n'est plus légitime car le scrutin qu'il a mis au pouvoir a été présidé par un organe non constitutionnel. Le Parti démocratique progressiste de l'ancien président Peter Mutharika, arrivé deuxième, appelle les tribunaux à annuler l'élection du Dr Lazarus Chakwera et de son vice-président, le Dr Solos Chilima. Pour certains experts, comme Danwood Chirua, à l'Université sud-africaine du Cap, il y a peu de chances que la dissolution de la commission électorale puisse entraîner la démission du président malawite.
Le gouvernement somalien a défendu l'extension de 2 ans du mandat du président voté au Parlement et a vivement dénoncé les déclarations incendiaires chargées de menaces de certains partenaires. Lundi, les députés ont voté une loi prévoyant la tenue d'un scrutin universel direct en 2023 et prolongeant le mandat de Mohamed Abdoulaye Mohamed qui a expiré en février.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Afghanistan pour une visite surprise. Il présente au gouvernement le plan de l'administration Biden pour le retrait des troupes américaines d'ici le 11 septembre. Le point avec Rosine Mounezero.
Anthony Blinken va rencontrer le président afghan Ashraf Ghani ainsi que le bureau responsable américain. Il vient évoquer l'annonce faite hier par le président Joe Biden que l'heure était venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique déclenchée après les attentats du 11 septembre 2001. Joe Biden repousse de 5 mois la date butoir du 1er mai prévue dans l'accord conclu en février 2020 par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans. Le président Ghani a dit respecter ses décisions, estimant que les forces afghanes sont pleinement capables de défendre leur peuple et leur pays. Le retrait des 2500 soldats américains d'Afghanistan débutera le 1er mai, conjointement au retrait des soldats de l'OTAN qui regroupe quelques 9600 militaires venus de 36 pays. De nombreux analystes considèrent que ce retrait pourrait plonger le pays dans une nouvelle guerre civile ou permettre un retour au pouvoir des talibans.
L'ex-policier américain Derek Chauvin a indiqué ce jeudi qu'il refusait de témoigner à son procès où il est jugé pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis l'an dernier. Il a déclaré invoquer son droit au 5e amendement en référence au droit de tout accusé aux États-Unis de ne pas apporter de témoignage susceptible de l'incriminer. Les débats ont pris fin aujourd'hui. Les réquisitions et la plaidoirie sont prévues lundi. Le gouvernement de Joe Biden a annoncé une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de 10 diplomates en réponse à des cyberattaques et ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou. La Russie a convoqué l'ambassadeur américain et estimé que ces mesures ne vont pas favoriser l'organisation d'un sommet Biden-Poutine proposé par la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Le Maroc a annoncé avoir lancé auprès de 9 millions de bénéficiaires son plan de généralisation de la couverture sociale, destiné à terme à couvrir 22 millions de personnes dépourvues d'assurance maladie. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants et leurs familles seront les premiers inclus dans le régime de l'assurance maladie obligatoire en 2021 et 2022, selon un communiqué officiel diffusé hier après une cérémonie de lancement de l'opération en présence du roi Mohamed VI. Dans le nord de la Tunisie, quelques 300 agriculteurs s'efforcent de préserver une technique ancestrale d'irrigation face aux pénuries d'eau. Pommes de terre, laitues et oignons poussent sur des parcelles sableuses de bord de mer. Et ces cultures sur sable, qui s'étendent sur environ 200 hectares, ont été inscrites l'an dernier au patrimoine agricole mondial de la FAO, qui les considère comme uniques au monde. Enfin, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis ont fortement baissé la semaine passée et sous la barre des 600 000. Il s'agit du niveau le plus bas pour des inscriptions au chômage depuis le 14 mars 2020, selon le département du travail.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Athlétisme. Pour commencer, la double championne olympique du 800 mètres, Caster Semenya, a conservé à Pretoria son titre de championne d'Afrique du Sud du 5000 mètres grâce à son meilleur temps sur la distance. À 3 mois des Jeux de Tokyo, l'athlète de 30 ans a signé un temps de 15 minutes 52 secondes à plus de 42 secondes de la marque requise 15-10 pour aller au Japon. Elle a jusqu'au 29 juin pour se qualifier. Médaille d'or sur 800 mètres aux JO de Londres et de Rio. La Sud-Africaine ne pourra pas défendre son titre à Tokyo. Elle présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles et refuse tout traitement pour faire baisser son taux de testostérone, comme l'exige World Athletics, pour concourir avec les femmes sur des distances allant du 400 mètres au 1000. Justement, cette question, faut-il s'inquiéter de la tenue des JO? Une étape du relais de la flamme olympique annulée, mise en garde inquiétante d'un responsable médical. À 100 jours hier du coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo, la pandémie de coronavirus jette une ombre sur le déroulement de ces Jeux, déjà reportés d'un an et prévus cet été. Le gouverneur du département d'Ehime, sur l'île japonaise de Shikoku, dans l'ouest, a annoncé hier que le relais de la flamme ne passerait pas par la ville de Matsuyama, sa capitale, à cause de la pression extrême qui subit actuellement le système hospitalier local. Ce nouveau revers vient encore compliquer la tâche des organisateurs, confrontés à des doutes persistants quant à la possibilité de tenir des JO prévus s'ouvrir le 23 juillet. NBA, les Sixers, portés par l'indispensable Joel Embiid, ont laborieusement remporté leur duel au sommet de la conférence Est face aux Nets démunis lors d'une soirée où Luka Doncic a encore fait un miracle. Bagassi Koura.
Oui, cette troisième répétition entre Philadelphie et Brooklyn a de nouveau tourné à l'avantage des 76ers, 123 à 117, alors qu'ils pensaient ne pas refouler le parquet du dernier quart-temps. Le Camerounais Joel Embiid, 39 points, 9 rebonds, est alors revenu jouer les pompiers de service. Au classement, Philly garde seul la tête de la conférence Est, Brooklyn glissant au deuxième rang devant Milwaukee, qui a enchaîné avec un deuxième succès d'affilée à Minnesota, 130 à 105. Pour ceux qui veulent comprendre l'expression « shoot, alléluia », ils peuvent revoir les tirs en flotteur entre deux adversaires sur une jambe derrière la ligne à trois points, réussi au buzzer par Luka Doncic, synonyme de victoire de Dallas à Memphis, 114 à 113. Plus tôt, à Oklahoma City, Steph Curry, encore lui, a permis à Golden State de l'emporter, 147-109.
Merci, Shibaga Sikura.
Merci beaucoup, Yakuba, pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les autorités de la transition malienne ont annoncé que l'élection présidentielle et les législatives se tiendront en février et mars 2022, réitérant la promesse des auteurs du coup d'État d'août 2020 de rendre le pouvoir aux civils. Pour une analyse, Bagassikoura a joint David Dembélé, journaliste à Bamako.
Ce calendrier était très attendu parce que c'est tout le peuple qui attendait la publication, sinon l'adoption de ce calendrier électoral-là.
Est-ce que vous pensez que le pays pourra être prêt?
Oui, depuis l'arrivée de ce gouvernement, il est attribué pour, dans le cadre des rencontres avec les parties prenantes, il y a pas mal de rencontres pour que ce calendrier voit les jours. Et donc, je pense que sur le plan technique, aussi la révision du fichier électoral avait déjà commencé. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aller vers cette direction-là à l'échéance. Si la dynamique enclenchée est maintenue, je pense que nous pouvons, avec une forte volonté politique, arriver à ces élections et que puissent s'aider à
d'accord. Alors, on a vu les partenaires du Mali, notamment les États-Unis, s'inquiéter ces derniers jours. Est-ce que cela se justifie à votre avis?
Oui, les inquiétudes sont fondées. Quand on regarde non seulement la lenteur, effectivement, il y a une certaine lenteur qui a été signalée au départ. Et ça avait vraiment inquiété beaucoup d'acteurs, beaucoup d'observateurs de la scène politique malienne, à savoir si les élections vont réellement se tenir à l'issue des 18 mois, en partie pour la transition. À regarder de près le travail qui est en train d'être fait, je pense qu'il y a des raisons d'espérer qu'on ira vers des élections inclusives et bien organisées. Je parlais tantôt de la révision du fichier électoral qui avait commencé. Et puis, le référendum est fixé pour octobre. Je pense que nous pouvons y aller.
Quand on parle d'élections au Mali, on pense tout de suite à la situation sécuritaire. Est-ce que ces élections pourront se tenir sur une bonne partie du pays?
Il y a des inquiétudes à ce niveau et ces inquiétudes sont bien fondées. Je pense que le gouvernement ne doit pas dormir sur ses lauriers. Beaucoup de gens, beaucoup de ressortissants du centre, à partir de Mopti jusqu'à Sédou, certaines localités qui ont connu des attaques, puissent revenir sereinement dans leur localité. Parce que si les élections sont bâclées, si une bonne partie de la population n'est pas arrivée à voter, on ne peut pas parler d'inclusivité, on ne peut pas parler d'élections régulières. Je pense que ça doit faire partie de la priorité du gouvernement. À partir du moment où le calendrier électoral est publié, le gouvernement doit travailler à rassurer la population, à multiplier les opérations de sécurité. Les retours des populations, de certaines populations qui se sont vues obligées de se déplacer.
David Dembélé est journaliste au Mali.
Des informations pertinentes et fiables. C'est VOA Afrique au Mali. Musique et actualité pour tous. Sur 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 Tombouctou.
Les résultats de la présidentielle du 11 avril au Tchad se font toujours attendre. Les observateurs internationaux et nationaux font des déclarations préliminaires sur le taux de participation et la crédibilité du scrutin. La CENI dit que les résultats partiels seront donnés dans une dizaine de jours seulement. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Nous affirmons sans nous tromper veut que l'élection présidentielle est libre, transparente et démocratique, donc crédible.
C'est le refrain de tous les observateurs nationaux et internationaux malgré le climat politique tendu avant le scrutin et l'appel au boycott lancé par les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile. Toutes les missions d'observation s'accordent sur la sérénité du scrutin alors que le secrétaire d'un bureau de vote qui requiert l'anonymat dénonce des agissements de forces de sécurité.
Plusieurs groupes de militaires sont venus, ont arraché les urnes et ils ont demandé à tous les présidents des bureaux de vote de monter immédiatement dans les voitures. Chez nous, il y a 4 bureaux de vote. Ils ont pris tous les présidents.
Pour Koumalé Bidjapa, coordonnatrice de l'association des femmes pour la lutte contre la pauvreté, ces actes ne sont pas de nature à remettre en cause le scrutin.
Les quelques manquements constatés dans certains endroits sont mineurs et ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ce scrutin.
Toutefois, les observateurs ne s'entendent pas sur le taux de participation et le caractère secret du vote.
Du Tchad profond à la capitale N'Djamena, un engouement général de la population a été constaté, d'où la notification d'un taux élevé de participation.
L'engouement des électeurs tchadiens pour ce scrutin était moyen.
Le secret du vote a été protégé dans tous les bureaux visités.
On a pu noter une légère défaillance du dispositif d'isoloir qui, à certains bureaux de vote, ne pouvant pas assurer la discrétion.
L'environnement électoral a été menacé dès le départ avec des appels à des manifestations souvent réprimées par la police et le déploiement massif des forces de l'ordre dans les quartiers le jour du vote. Doumla Iba Laurent est spécialiste en questions électorales.
C'est pas pour rien que la loi demande à ce que les forces de sécurité votent un jour avant et qu'après ils soient dans leur caserne. Mais les gens sont sortis avec des armes, parcourent tous les quartiers comme si on était en état de siège. Un observateur ne peut donner ses impressions que sur ce qu'il a effectivement observé. On a plus de 23 000 bureaux de vote, mais leurs observations, elles, sont basées sur un échantillonnage représentatif. Malheureusement, les observateurs ont fait une déclaration comme s'ils ont observé dans tous les bureaux de vote. Donc ça ne les engage que eux.
Pour l'analyste politique l'Aldim Narcisse Mbainadji, ce sont les mêmes bandes d'observateurs qui font le tour dans chaque élection en Afrique pour cautionner les mascarades électorales.
Finalement, ils sont devenus des chasseurs de perdièmes. L'élection s'est déroulée, d'accord, mais il faut quand même relever que les gens ont entendu le mot d'ordre de boycott parce que les conditions ne sont pas réunies. Malheureusement, tout ce monde ont entonné la même rengaine. C'est même une honte pour l'Afrique.
La CENI procède à partir de ce jeudi à la publication des résultats partiels. Elle a 15 jours à compter de la date du scrutin pour proclamer les résultats provisoires. Le président Idriss Déby Itno, après 30 ans au pouvoir, brigue un sixième mandat. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burkina Faso, le tribunal militaire a mis en accusation l'ancien président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et 12 autres personnes dans le dossier Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Une victoire d'étape pour les parties civiles, mais les avocats de la défense contestent cette décision, évoquant la prescription du dossier. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, a tendu son micro à maître Mathieu Sommet, l'avocat de Diendéré, ancien bras droit de Compaoré.
Bonjour, maître Mathieu Bonkongo.
Bonjour.
Le tribunal militaire a mis en accusation mardi dernier Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, que vous défendez, et une dizaine d'autres personnes dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Comment vous avez accueilli cette décision?
Nous avons accueilli cette décision comme n'importe quelle autre décision de justice. Nous allons aviser de la suite que nous allons donner. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas satisfaits de la mise en accusation qui a été décidée par la chambre de contrôle. Parce que tout simplement, nous estimons que cette chambre a foulé au pied les différents moyens que nous avons évoqués, tant dans la forme que dans le fond.
Votre client, le général Gilbert Diendéré, qui purge déjà une peine de 20 ans dans le cadre du coup d'État, est mis en cause dans l'assassinat de Thomas Sankara. Depuis l'annonce de cette décision, comment est-ce qu'il va? Vous l'avez rencontré?
Nous étions ensemble hier lorsque la chambre de contrôle a rendu sa décision. Mon client il se porte bien. Nous avons accueilli la mise en accusation ensemble et nous avons avisé pour la suite.
Vous, avocat de la défense, vous n'êtes pas d'accord avec ces mises en accusation. Vous évoquez d'ailleurs la prescription du dossier, vu le temps qu'il a fait. Vos collègues des parties civiles pensent que vous faites du dilatoire. Qu'est-ce que vous répondez?
Dans le fond, quand vous regardez, cette décision, elle n'est pas fondée, à mon sens, dans la mesure où on recherche la responsabilité du chef hiérarchique. C'est en cela que on essaie de rechercher la responsabilité du général Dienguéré en disant qu'il avait le commandement de la troupe et n'a rien fait pour sanctionner quelqu'un et il n'aurait rien fait aussi pour empêcher cela, comme s'il était avisé d'une situation qui allait arriver. Le général Dienguéré n'était pas c'était le commandant en chef numéro 2. Alors, il n'était pas le commandant en chef. Dans la reconstitution des faits, on a refait le tour à pied. On a vu comment chacun est arrivé. Donc, dire qu'ils étaient au courant, ils n'ont rien fait, rechercher la responsabilité du chef hiérarchique de cette façon, ce n'est pas du tout objectif. C'était une approche purement subjective.
Qu'est-ce que vous comptez faire si vous pensez que le droit n'a pas été dit?
Pour l'instant, je pense que nous allons aller vers le tribunal militaire pour que nous puissions en finir avec cette question. Et j'espère bien que cette juridiction mettra en avant son impartialité et son objectivité surtout. Parce que quand on regarde ce dossier, il est impacté subjectivement, tellement impacté subjectivement. Moi, je suis dessus de cette approche judiciaire.
Merci, Maître Mathieu Sommé.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président américain Joe Biden a annoncé hier son intention de retirer d'ici le 11 septembre les 2500 soldats américains présents en Afghanistan. L'administration Trump avait convenu l'année dernière de la date limite du 1er mai pour ce retrait. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche. Le récit est de Rosine Munezero.
Après 20 ans de guerre, près de 1 000 milliards de dollars dépensés, plus de 2300 soldats américains tués ainsi que des dizaines de milliers d'Afghans, les États-Unis disent maintenant trop c'est trop. Le président Joe Biden.
We went to war with clear goals.
Nous sommes entrés en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs. Ben Laden est mort et Al-Qaïda est bien affaibli en Irak et en Afghanistan. Il est temps de mettre définitivement fin à la guerre.
Le président Biden a annoncé que les 2500 soldats américains déployés en Afghanistan vont se retirer d'ici le 11 septembre, deux décennies après l'invasion de ce pays par les États-Unis à la suite des attaques du groupe Al-Qaïda dont les leaders avaient trouvé refuge en Afghanistan. L'administration Trump avait fixé au 1er mai la date limite de ce retrait à condition que les talibans afghans rompent leur lien avec Al-Qaïda. Joe Biden a fixé un retrait sans condition, arguant qu'il ne sert à rien de continuer à mener une guerre insoluble et d'attendre des résultats différents. Certains républicains affirment que les talibans vont reprendre le contrôle et porteront préjudice aux intérêts afghans et américains. Le sénateur républicain Lindsey Graham.
Le président Biden a malheureusement choisi l'option la plus risquée, qui est de partir, quoi qu'il arrive.
En coordination avec les États-Unis, l'OTAN a annoncé mercredi le retrait de 10 000 soldats d'Afghanistan d'ici le 1er mai. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a lancé une sévère mise en garde.
Toute attaque des talibans contre nos troupes au cours de cette période va susciter une réponse énergique.
Joe Biden a assuré que les États-Unis et leurs alliés vont continuer à entraîner et équiper près de 300 000 soldats afghans. Washington promet aussi de soutenir les efforts humanitaires et de s'engager diplomatiquement.
Nous appuierons les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans facilités par les Nations Unies et nous allons continuer de soutenir les droits des femmes et des filles afghanes.
En réponse à la décision de Biden de retirer des troupes en septembre au lieu du mois de mai, les talibans ont lancé un avertissement, augmentant les craintes de violence et d'effondrement du gouvernement afghan. Austin Wright est professeur à l'Université de Chicago.
Il n'y a probablement aucune option qui réduise considérablement le niveau de violence.
Il n'y a probablement pas non plus d'options sur la table pour construire l'Afghanistan que les États-Unis avaient probablement à l'esprit lorsqu'ils ont investi plus de 1 000 milliards de dollars dans la guerre. Alors oui, c'est probablement la meilleure d'une série de mauvaises options.
Le Conseil de paix afghan, un organe créé pour négocier avec les talibans, doit se réunir en Turquie à la fin de ce mois-ci, mais les perspectives de paix paraissent sombres. Après ces remarques, Joe Biden s'est rendu au cimetière national d'Arlington pour rendre hommage aux soldats américains tombés en Afghanistan.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.